Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bonjour et bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, la nouvelle émission Divergence FM dédiée au monde du vin. Alors quoi de mieux pour commencer notre aventure que de découvrir l'histoire viticole de la France, et plus particulièrement celle du Languedoc. Des premières traces du vin en Géorgie jusqu'à Gérard Bertrand, en passant par les Romains, la mise en bouteille, le phylloxéra, bref, l'histoire du vin est riche, abondante et pleine d'histoires croustillantes. Alors pour être plus précis, s'émerveiller et en apprendre davantage, mon invité aujourd'hui est une historienne, une autrice, une journaliste et une vigneronne, bref, une experte dans le monde du vin. Je vous présente Florence Monferrand. Bonjour Florence et merci d'être là.
Bonjour Willy, je suis ravie d'inaugurer cette émission radio, ce podcast.
Et ben, en tout cas, merci Florence d'être la première à venir ici. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, donc je suis, comme vous l'avez dit, historienne et vigneronne essentiellement, et je travaille sur les patrimoines viticoles. J'ai démarré par les patrimoines que j'avais autour de moi, sur les terroirs historiques du Muscat près de Frontignan, et puis petit à petit j'ai agrandi ce cercle, le Languedoc, la France, et tout ce qui a trait à la préservation de la vigne et de la culture du vin.
Qu'est-ce qu'on fait comme étude pour devenir historienne dans le monde du vin? Comment on apprend cette rigueur?
Alors, la rigueur, on l'apprend par le parcours de recherche, puisque j'ai une formation universitaire en histoire et civilisation. Donc, j'ai mené un doctorat qui n'était pas du tout sur le vin. Et la passion du vin m'est venue par mon compagnon. Et j'ai bifurqué il y a une vingtaine d'années sur ce sujet qui est passionnant et qui aussi par cercle s'élargissant touche mais des questions de la nature, des écosystèmes, de la place de la femme dans le vin, enfin voilà. On arrive à énormément de thématiques.
Oui, il y a beaucoup de choses à raconter en plus aujourd'hui. Je me trompe pas quand je dis que la vigne et le monde du vin datent de l'époque, entre guillemets, en Géorgie, il y a 8000 ans, c'est bien ça?
Alors, les dernières recherches qui ont été menées, qui ont été publiées après les confinements, montrent une datation de la domestication de la vigne qui serait autour de 11 000 ans avant notre ère, et qui serait, ce qui est passionnant, conjoint entre les monts Caucase, Arménie, Géorgie, et le croissant fertile, le Moyen-Orient. Et nous avons deux foyers, en fait, de domestication assez éloignés quand même, et concomitants.
Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. 11 000 ans, c'est même plus loin que les premières traces d'agriculture, ou c'est...
C'est la question que je me suis posée immédiatement, moi, et ces recherches et ces découvertes, en fait, ouvrent de nouveaux champs de réflexion sur ce que nous connaissons, hein, puisque on est sur des datations beaucoup plus anciennes.
Alors, en France, l'histoire est beaucoup plus récente. On parle souvent des Romains, mais c'est faux de parler des Romains en France comme étant l'origine du monde viticole.
Alors, c'est faux, dans le sens où, notamment ici, en Languedoc et dans le sud de la France, avant les Romains, nous avons l'arrivée des Grecs, des Phocéens, qui viennent alors eux de la partie de l'Orient grec. Phocé se trouve actuellement en Turquie. Et ces Phocéens étaient à la recherche de débouchés commerciaux pour leur vin. Et comme beaucoup de débouchés étaient occupés, ils sont allés de plus en plus loin. Donc ils sont arrivés sur les rivages de la Méditerranée côté Marseille, où ils ont fondé...
La cité phocéenne.
Et où ils ont très rapidement installé un vignoble.
Et ce vignoble, du coup, autour de Marseille, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Actuellement, on pourrait trouver des anciens outils pour faire le vin, des anciennes vignes. Raconte-nous un peu cette histoire.
C'est assez incroyable parce qu'il y a une découverte très récente dans Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, où faisant, comme souvent maintenant pour les découvertes archéologiques, des travaux assez importants, ils doivent faire des fouilles préventives, c'est la loi maintenant, et ils ont découvert un nouveau vignoble, enfin, des traces d'un vignoble qui descendait à l'époque jusqu'à la mer, mais qui aujourd'hui, bien sûr, est complètement urbanisé.
Donc, carrément sur les premières collines dès qu'on arrive dans la grande crique du port.
Alors, je ne connais pas bien Marseille, c'est dans les quartiers nord. Alors qu'on avait connaissance seulement d'un vignoble qui était Saint-Jean-du-Désert. Donc on est là sur le 6e siècle avant notre ère. Et celui-là est également de cette époque-là. Et il démontre l'importance que le vin avait pour ses phocéens. Et ce vin est devenu extrêmement réputé. Le vin marseillais était diffusé. Alors c'est très touchant pour moi parce que j'ai des traces de ce vin sur les collines de la Gardiole, près de chez moi, dans des échanges qu'il faisait avec les peuplades locales.
Bon, pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire à quoi ressemblait le vin à l'époque ? Imaginez son goût, par exemple.
Alors, on imagine son goût, évidemment. Il y a quelques traces dans des flacons. J'ai vu dans une exposition à Latara, hein, sur le grand site archéologique de Latte, la trace d'un vin qui était vieux de 2000 ans. Alors, il était certainement un peu épais. On pense qu'il était plus épais que ce que nous faisons, compte tenu de leurs conditions d'élaboration.
Plus sirupeux ou il y avait des intrants naturels qui rentrent du miel ou autre qui rentrent?
Alors, les intrants, les additifs, ce n'est pas nous qui les avons inventés. C'est le goût des antiques qu'il a inventé. Ils aimaient beaucoup, ou ils avaient besoin pour la conservation du vin, ils aimaient beaucoup mettre du miel, des aromates, des plantes qui étaient utiles à la conservation, hein, parce que le grand sujet pour eux, c'était la conservation. Ils ne connaissaient pas les sulfites. Et donc, ils avaient tout un système pour essayer de conserver le vin. Ils le plâtraient. Alors, quand on crie, on pousse des cris, ils plâtraient le vin, mais c'est ce qu'on faisait encore en Languedoc au milieu XXe siècle. Ils ajoutaient, en fait, c'était une sorte de gypse qui avait des propriétés pour la conservation. Le goût qu'ils avaient, eux, tel qu'on le connaît, tel qu'ils le décrivent, hein, dans leurs ouvrages, dans leurs poèmes et dans leur hiérarchie, c'était un vin blanc. Ils avaient une préférence pour les vins blancs et pour les vins doux. Et donc, tout en haut des hiérarchies, les vins étaient doux.
Et c'était déjà du muscat à l'époque, alors ?
Ah, il y avait déjà du muscat. Le muscat à petits grains est un cépage qu'ils ont importé, qu'ils ont diffusé et auquel ils tenaient énormément. On n'en a pas de preuves scientifiques comme on en a une pour la clairette qu'on a retrouvée près de son AOP actuel, hein, quelques kilomètres, et qui datait de la conquête romaine du 1er siècle de notre ère. Mais on a un ensemble de faisceaux convergents vers la présence du muscat, oui.
Alors, l'histoire grecque, enfin en tout cas phocéenne, entre guillemets, s'en va. Comment on arrive tranquillement vers l'époque romaine et puis ensuite vers l'époque médiévale ?
Alors en fait, la présence phocéenne est importante. Hein, il y a des grandes cités, des comptoirs, notamment celui d'Agde. Et dès le 2e siècle avant notre ère, les Romains viennent chasser sur le territoire des Grecs et opérer une conquête commerciale. On voit que, grecs comme romains, pour eux, le vin est un agent de conquête et un agent de civilisation. On y reviendra peut-être. Pour la conquête, dès le IIe siècle avant notre ère, les Romains supplantent les Phocéens du point de vue commercial et ils opèrent une conquête territoriale un siècle plus tard.
Ils remontent plus haut dans les terres, vallée du Rhône, Narbonne.
D'abord, ils s'en tiennent à tout ce qui est le pourtour méditerranéen jusqu'en Espagne, okay. Puisque leur province qu'ils créent en -118, la Narbonnaise, avec comme capitale Narbomarsus, Narbonne, cette province étant des Alpes jusqu'à l'Espagne. Et là, nous arrivons à une conquête territoriale. Et cette conquête, en fait, les auteurs antiques nous disent que la civilisation s'arrête là où la vigne cesse de pousser. Enfin, c'est une leçon pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, la vigne connaît un véritable âge d'or avec les Romains qui, effectivement, l'implantent pour eux. Pline l'Ancien nous dit, c'est comme une seconde Italie. C'est plus qu'une province, c'est comme une seconde Italie. Et ils la développent dans des conditions identiques à celles de l'Italie. Puis, peu à peu, parce qu'ils conquièrent territorialement de nouveaux pays, de nouveaux territoires, ils étendent. La vigne suit pour des raisons très pratiques, c'est qu'elle alimente leurs légionnaires. Et ensuite, quand c'est le cas pour la Narbonnaise, quand les légionnaires, la conquête est finie, ils leur donnent la vigne à cultiver.
Donc à la fin de l'Empire romain, comment se passe la transition vers l'époque médiévale? Comment on arrive à la vigne dans cette époque de l'histoire?
La transition entre cette époque et le début du Moyen-Âge, un Moyen-Âge court sur 1000 ans, donc on va distinguer plusieurs périodes. Ce n'est pas une période de rupture brutale comme on le pense avec l'invasion des Visigoths pour nous, ce qu'on appelle des invasions barbares. Il y a plutôt une assimilation de ces arrivants, de ces envahisseurs qui veulent absolument ressembler au modèle romain. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une rupture brutale à ce moment-là. Il va y avoir un peu plus tard une période autour des 8e, 9e siècle qui, elle, est assez agitée, parce qu'on assiste à des luttes de pouvoir entre... Bon, ça, c'est un petit peu après compliqué.
Ouais, ouais.
Mais pour nous, pour avoir travaillé longuement sur le Languedoc, il n'y a pas de rupture de la pratique viticole. On en a trace dans les différentes archives qui commencent à arriver à partir de ce moment-là, bon, qui sont des documents comme les cartulaires, les chartes des abbayes, des monastères qui commencent à se fonder. Il n'y a pas de rupture de cette pratique.
Et les vignes sont où alors dans le Languedoc, on va dire dans le grand Moyen-Âge?
Alors en fait, on pensait qu'elles étaient au départ avec les Romains, qu'elles étaient près de la mer seulement, mais on s'est rendu compte par les découvertes archéologiques qu'en fait elles couvraient l'ensemble du territoire. Elles allaient beaucoup plus loin que le littoral. Et au Moyen-Âge, là évidemment, on arrive à un moment où la vigne connaît sa plus grande extension en France. Et en Languedoc, nous avons ce phénomène d'installation de grands mouvements religieux, donc tel qu'on le connaît, avec les cisterciens, les bénédictins et les grandes abbayes fondatrices de terroirs. Et je voudrais quand même moduler ça. Je suis très contente parce que très récemment, on l'a vu pour la Bourgogne, il y a eu des publications pour la Bourgogne aussi, pour ces fameux climats. On peut dire qu'il y a un apport évidemment éminent de ces mouvements religieux. D'abord parce qu'ils conservent les savoirs antiques. C'est eux qui ont dans leur bibliothèque et qui recopient les grands textes de Columelle, Palladius, Pline, tous les Caton, enfin tous les grands auteurs que l'on connaît. Donc c'est eux qui savent comment on plante, puisque tous ces auteurs nous le décrivaient. Mais il ne faut pas négliger, et je pense qu'il faut le mettre en rapport, le rôle de la paysannerie, notamment pour nous, en Languedoc, les réfugiés de l'Espagne visigothique, qui sont chassés par les Sarrasins, et qui viennent avec leur pratique, avec leur culture, qui viennent nourrir notre pratique viticole. Parce que la vigne est très consommatrice de bras, et c'est sans ces bras et sans leur pratique, sans ce qu'ils avaient déjà accumulé comme savoir, hein, puisque tout ça est une transmission, sans eux... on n'aurait pas fait grand-chose.
Oui, c'est clair et net que c'est un métier de bras et on l'oublie souvent avec la machine aujourd'hui. En résumé sur cette partie du Moyen-Âge, si tu avais Florence, plusieurs grandes dates pour illustrer l'histoire du vignoble languedocien au Moyen-Âge jusqu'au 18 ou 19e.
Alors, grande date au Moyen-Âge, ben ici c'est la fondation de Maguelone qui est vraiment fondatrice de ce mouvement. Un peu plus tard, on a Agnan, 8e, 9e siècle, on a vraiment les grandes fondations d'abbayes. Moi, je raisonne plutôt en durée, donc on n'a pas 1515, ou on a des mouvements d'expansion au 13e siècle, où vraiment on est dans un grand mouvement de... où aussi on voit apparaître les bourgeois qui, la classe la plus élevée du tiers-état, qui vient acheter aussi des vignes pour imiter les aristocrates, le modèle des élites. On a des périodes plus difficiles, 14e, 15e siècle, où on a une restriction de la culture. Ce qui est très important, c'est que cette culture est véritablement installée à la fin du Moyen-Âge et qu'elle est à la fois, comme le dit l'historien Gilbert Larguier, secondaire et présente partout. Et ça, on a des traces donc, dans tout le Languedoc, le Roussillon, sur lequel il a travaillé aussi. On voit que la vigne est à la fois secondaire, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une culture de subsistance, hein, et que les céréales, la culture des céréales est absolument la préoccupation essentielle, mais qu'elle est partout. Elle est installée partout, elle est instillée partout comme culture. Et ça, je pense que dans les mentalités, c'est très présent.
Une dernière date peut-être avant de...
Alors, si on veut dire des grandes dates, ça va être avec Louis XIV, la création du port de Sète et de la ville de Sète, port entièrement dédié à l'exportation des vins.
Il s'écrivait à l'époque CE2TE, c'est ça ?
C'est ça. C'est l'orthographe récente, date du XXe siècle. Et là, on peut dire que c'est vraiment le désenclavement du Languedoc qui était un petit peu freiné par le privilège de la ville de Bordeaux pour la vente et l'exportation des vins. Et freiné, quand Marseille voulait bien exporter, ça allait. Mais vraiment, on peut dire que c'est là que le Languedoc va pouvoir diffuser ces vins. Et pour moi, la grande date, en fait, c'est un siècle entier, c'est le 18e siècle qui est vraiment sans doute une apogée qualitative. Les muscats qui sont l'étendard de cette culture sont à leur apogée. Ils sont diffusés partout dans l'Europe, dans les cours, les grandes ce monde, aux États-Unis avec Thomas Jefferson. Donc on a vraiment au 18e siècle un moment, un paroxysme. Hein, vraiment, on est tout en haut. Et ce moment de bascule vers une monoculture de masse. Parce que dès le 18e, notamment les bourgeois bravent toutes les interdictions royales de ne plus planter, de ne plus fumer, c'est-à-dire de mettre des engrais sur les vignes. Ils s'en fichent. Et les intendants du Languedoc, qui sont les grands dirigeants, les grands représentants royaux en province, disent que le vin est un Eldorado, est un véritable Pérou pour le Languedoc. Et là, on commence à planter beaucoup. Beaucoup et ouais, partout.
On se rapproche du vin de plus en plus moderne. En tout cas, merci. Petite pause pour parler de la chronique vin. Je le montrerai plus tard, ça.
Ok, elle fait 5 minutes à peu près, ta chronique.
Ouais, je peux faire un...
3 minutes.
Après ?
Ouais.
Ah ouais ?
Ouais. Ah. T'avais beaucoup de questions encore ?
Ah, j'ai encore pas mal de questions, ouais. Sinon, je mets pas de chronique vin dans cet épisode.
Ah, c'est toi qui vois.
Ouais, si on peut récupérer les 5 minutes...
Le reportage, c'est pas grave si on n'a pas, je pense...
Bah du coup j'enlève la chronique vin et la chronique actu dans ce... Ouais, ouais comme ça on... Comme bah, ça il nous reste 8 minutes là.
Ouais, ouais c'est ça.
Ok, bon bah... Bah du coup on mettra pas, c'est ouais, ce que j'ai dit. Du coup, cette période moderne nous rapproche de plus en plus de ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle dans le Languedoc et même d'ailleurs, j'imagine, partout en Europe?
Alors, au XIXe siècle, en Languedoc, c'est quand même un phénomène très, très particulier qui est l'installation d'une monoculture. Donc, le paysage se couvre de vignes. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant à voir.
Qu'aujourd'hui, en plus.
Ah oui, oui, c'est dans des proportions qu'on n'imagine plus. Il y a une transition très importante, donc de la suprématie des vins blancs vers les vins rouges. Le Languedoc bâtit une nouvelle réputation qui est bien moins grande que la précédente avec des vins rouges, mais des vins rouges de petit degré, de piètre qualité, parce que ce qui est important, c'est d'en vendre beaucoup. D'où l'idée d'une production énorme qui, en fait, petit à petit, conduit ce vignoble à de graves erreurs, qui est de vouloir produire toujours plus. Il faut imaginer qu'une fortune peut se bâtir en un an, en deux ans, on rembourse sa mise. Enfin, c'est assez incroyable. Et cette folie du gain conduit à des pratiques qui font courir le vignoble à sa perte, puisqu'on a introduit le fameux phylloxéra. Et ça datait de...
Donc le phylloxéra, c'est une petite araignée rouge, pour
c'est
résumer.
C'est un puceron. Un puceron qui vit dans la terre, en fait, et qui prolifère dans la terre et qui mange les racines de la vigne et qui remonte. Mais il lui faut quelques années pour remonter. Et quand on le voit, c'est trop tard.
Ok, ouais. Donc là, on est en 1860-70, c'est ça?
Alors, 1863, un vigneron découvre à Pujot, dans le Gard, les ravages. Et en fait, ils vont aller très, très vite pour découvrir une parade, puisque dès les années 1880, un procédé qui est le surgreffage de la vigne par des variétés américaines qui étaient porteuses de ce puceron, qui ont été importées en Europe. Hein.
Je crois que la solution a été créée à Montpellier, non? C'est bien ça?
Oui, et Montpellier, ce n'est pas étonnant que ça se passe à Montpellier, puisqu'il y avait une grande école scientifique de botanistes, jusqu'à aujourd'hui, Francis Allais, dont nous regrettons la disparition. Une grande école qui, au vu de l'importance de la viticulture, s'est attachée à fonder une école prestigieuse.
Il y a d'ailleurs un square à côté de la gare à Montpellier du nom de la personne qui a trouvé cette solution.
Alors, Jules Planchon, qui n'était pas le seul, hein, et bon, il a un petit peu écarté les autres, mais il y avait le pépiniériste Sahut dans le Gard et sous la direction de la société d'agriculture qui était présidée par Gaston Basile. Alors, qui était très connu, maintenant qu'on n'est plus son fils Frédéric que lui,
mais
qui a présidé vraiment et coordonné tout ça.
Alors, à cette époque, le vignoble languedocien était dominé par les négociants, c'est bien ça? Et on a petit à petit une transition vers le monde coopératif. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Le grand phénomène que l'on connaît en Languedoc, c'est l'installation effectivement de caves coopératives où les petits propriétaires vont mutualiser leurs moyens qui étaient beaucoup moindres que les grands propriétaires qui étaient négociants aussi. Et la première cave, c'est celle de Maraussan en 1901. Enfin, elle est fondée en 1901, elle est inaugurée en 1905 avec un célèbre discours en occitan de Jean Jaurès. Et elle va finir par être un élément fondamental du paysage languedocien. Hein. Dans chaque village, il y avait une, parfois deux, quand elle ne s'entendait pas coopérative. C'était vraiment, il y avait le clocher... la mairie, la coopérative.
Et plein de viticultrices et viticulteurs qui amenaient leurs raisins dans ces fameuses CAF coopérative. Oui. Et qu'aujourd'hui, voilà, on est avec beaucoup plus d'indépendants, hein, de vignerons dits indépendants. C'est à partir de quelle époque, en fait, il y a une dissolution, entre guillemets, de ces CAF coopératives pour aller vers le monde indépendant?
Alors, il n'y a pas de dissolution de CAF dans la mesure où elles sont toujours là. De leur point de vue, on assiste à une fusion de plus en plus importante de ces caves. Je pense que d'ici quelques années, on arrivera à 4, 5 caves peut-être par département, pour des raisons économiques. Des petits propriétaires, des vignerons indépendants, il y en a toujours eu. Leur rôle est devenu important à partir de la crise pour le Languedoc, enfin de la crise. Du moment où l'État a dit stop à toutes ces crises de mévents, de production, de mauvaise qualité, et où ils ont forcé un
virage qualitatif.
Une mutation brutale.
Vers les années 90-2000, c'est ça?
Oui. Le plan, c'est le plan de Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, en 1973, et le temps d'être mis en action de façon très brutale, puisqu'il y a la moitié du vignoble qui est arraché et une partie qui ne sera jamais replantée à ce moment-là, donc sur un vignoble qui avait 400 000 hectares. Et c'est là que les vignerons indépendants vont prendre une grande importance, parce que ce sont eux les artisans principaux de cette mutation qualitative qui limite les rendements, qui change l'encépagement.
Vous avez quelques noms de vignerons ou de vigneronnes ?
Alors, ceux qui ont tracé la voie, c'est toujours gênant parce qu'on va en oublier. On pense à Aimé Guibert, à Thomas Gassas, à Thomas Gassac, les Coteaux du Languedoc avec Jean Clavel, en directeur technique, qui a imprimé un mouvement. On a les vins de Pays d'Oc avec Robert Scali, qui ramène cette pratique de faire des vins de cépage, de monocépage, et Jacques Gravejal, qui va prendre la tête de ces vins de Pays d'Oc qui sont aujourd'hui donc IGP Pays d'Oc, et tout ce mouvement qui va aussi donc bien sûr améliorer la qualité, mais aussi hiérarchiser les vins en AOC. Donc, ils sont créés il y a 40 ans.
Régional, sous-régional.
Et puis après, tout l'affinement de cette hiérarchie jusqu'à des appellations communales. Et 40 ans après, on aurait pu penser qu'ils pourraient tous se reposer sur leur laurier. Et puis non, il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Ben merci beaucoup en tout cas pour cette épopée dans l'histoire viticole du Languedoc. J'en profite pour citer votre livre, Le vin par tous les temps, des racines et des raisins à l'horizon 2030. Vous parlez histoire et futur de la viticulture dans le Languedoc. On y parle biodynamie, agroforesterie, évidemment, nouvelles pratiques viticoles. Et ce livre est préfacé par Marc-André Sellos. On le retrouve dans toutes les librairies. Merci beaucoup Florence en tout cas.
Merci Willy, merci à vous.
Et à bientôt.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et puis, on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.